EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour et bienvenue dans À table avec Annabelle. Et oui, j'ai survécu. Nous poursuivons cette émission, mais sans Jérémy aujourd'hui. C'est terminé ce qui s'est passé hier et je ne peux pas vous en dire plus. Il faut vraiment aller voir l'émission ou pas, si vous voulez savoir ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, je suis contente de retrouver mon amie Stéphanie.
Contente, tu as survécu à l'attaque de gâteau.
Oui, je t'ai épargné Stéphanie. Je t'ai épargné.
Mais j'aurais bien aimé être là, moi.
Oui, mais... peut-être pas à la fin. Je pense pas que t'aurais tant que ça apprécié. Donc non, dis-moi merci. Et Déborah, n'en parlons même pas.
T'as sauvé ma réputation.
Ah oui. Déborah, on est très heureuse de t'accueillir, Stéphanie et moi. Et nous sommes des personnes douces, bienveillantes et pacifiques. Nous ne te ferons aucun mal. Et on t'a rencontrée avec Laurine, parce que tu étais venue accompagner Laurine lorsqu'elle était venue.
C'est ça.
Et avec qui d'ailleurs, on avait eu de très belles émissions. Et du coup, elle nous avait parlé aussi de ton témoignage, Déborah. Donc, merci déjà de venir nous le partager.
Merci à vous.
De partager, tu vas nous raconter tes histoires d'amour, tes deux belles histoires d'amour. Et comment ça a mal commencé aussi, parce que tu nous le raconteras dans un instant. Mais tu as été exposée à la sexualité à travers l'abus. Et du coup, ça a eu un impact après sur toute ton enfance et ton adolescence, jusqu'à une rencontre extraordinaire dont tu nous parles dans un instant. Mais je veux aussi vous remercier toute la famille des partenaires encore une fois. Un grand merci pour tout ce que vous faites, pour votre soutien, votre fidélité. C'est un honneur pour vous que de pouvoir former cette famille avec vous et aussi de pouvoir un privilège et qu'on ne prend pas pour acquis de savoir que chaque mois vous êtes là, les partenaires mensuels, vous êtes avec nous dans la vision et de façon concrète. Alors merci pour votre soutien financier et merci aussi pour vos prières. Alors Stéphanie, comme je disais, on va découvrir ensemble le beau témoignage de Déborah. Laurine m'avait fait une description de ton témoignage en deux phrases choc. J'ai dit ok. Bah peut-être Déborah, elle a un super témoignage et elle m'a dit en deux phrases choc. J'ai dit ouais ok d'accord ouais bah on va la recontacter. Et le titre l'indique, c'est que à 16 ans, tu es devenue escorte. Escorte, c'est peut-être plus politiquement correct,
c'est-à-dire
que tu es entrée dans le milieu de la prostitution. Et comment est-ce que ça peut arriver? Comment est-ce qu'à cet âge aussi jeune, on peut tomber dans la prostitution? Qu'est-ce qui conduit à ça? Et en tout cas, merci de témoigner.
Ouais.
C'est pas forcément.
C'est pas facile.
Ouais, c'est pas un témoignage facile. Plusieurs femmes, je pense, choisiraient de garder cette partie de leur vie cachée en espérant tous les jours de leur vie que ça ne ressorte pas. Mais tu as décidé avec foi de pouvoir en témoigner pour rendre toute la gloire à Jésus.
C'est ça.
Alors c'est vraiment très beau. Donc on peut peut-être commencer. Toi, tu es née dans une famille musulmane, c'est bien ça?
C'est ça. Alors, je suis née d'une mère musulmane et j'ai grandi avec elle. Donc, elle m'a quand même élevée sur base de la religion musulmane. Du côté de ma famille maternelle, ils sont vraiment musulmans. Du côté de ma famille paternelle, il y a beaucoup plus de musulmans que de chrétiens. Mais j'ai vraiment été plongée dans la religion musulmane, en fait. J'ai pas grandi avec mes deux parents. Ils étaient séparés, ils se sont jamais mariés. Ça fait que déjà très tôt, il y avait un déséquilibre, parce que lorsqu'un enfant n'est pas avec ses deux parents, il y a forcément un déséquilibre. Et suite à ça, j'ai commencé à... En fait, un peu plus tard, ma mère m'a permis de voir mon père. Et par la suite, je devais avoir peut-être quelque chose comme 8-10 ans, entre 8-10 ans. Je ne me souviens plus exactement, mais ça devait être vers ces eaux-là. Et j'ai vécu en fait du coup très tôt un abus sexuel. Et lorsque j'ai vécu cet abus sexuel, ça m'a vraiment plongée dans tout ce qui est la masturbation, la pornographie, la sexualité très très jeune en fait.
C'était pas un abus avec ton père?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était vraiment une personne de la famille. C'était pas un abus sexuel avec mon père. C'était quelqu'un quand même de très proche, mais
c'était pas cette période-là.
Bah, ça a duré quand même pendant peut-être, j'irais, un an. Après, c'était pas forcément régulier. C'était plus quand, bah, du coup, j'allais en fait, j'allais chez mon père.
D'accord.
Ou que j'allais du coup chez la famille de mon père, donc chez ma grand-mère, que j'ai eu à vivre en fait.
Est-ce que tu as pu en parler?
Malheureusement, non. En fait, faut savoir que c'est quand même très tabou ce genre de sujet. Pour pas cataloguer, hein, mais quand même dans les familles africaines, c'est très tabou en fait de parler de ce type de choses-là. Et à l'époque, j'étais quand même très turbulente. Je faisais beaucoup de bêtises. donc voilà. Donc ça fait que même quand j'ai voulu en parler et que je lui ai dit que j'allais le dire, il m'a dit bah vas-y, de toute façon personne va te croire.
Ok.
Donc en fait directement, moi ça m'a braqué parce que bah je savais que j'avais quand même cette réputation de fille turbulente et autres. Donc voilà.
T'as l'air douce comme ça. Elle a des petits yeux espiègles. Moi, je peux me croire qu'elle.
Je suis douce.
Mais douce et espiègle, ça va très bien ensemble. Et du coup, tu grandis comme ça. Pour toi, c'est la porte à l'impudicité.
C'est ça.
Bah, t'es jeune, hein, donc j'imagine tu comprends pas forcément aussi toutes les conséquences que ça peut avoir. T'arrives à l'adolescence. Du coup, j'imagine que les choses ne s'améliorent pas à ce moment-là.
C'est clairement ça. En fait, bah, j'arrive à l'adolescence et lorsque j'arrive à l'adolescence, c'est la connaissance de tout. Mm-hmm. Parce que, bah, quand j'étais encore un peu plus jeune, c'était vraiment tout ce qui était la pornographie et autres, mais la masturbation. Mais quand j'ai grandi, j'ai commencé à connaître les hommes, en fait. Mm-hmm. Donc, c'était autre chose et j'enchaînais relation après relation après relation. Ce qui fait que ça crée aussi également de la dépendance affective, des blessures intérieures. Parce que, bah, je pense que indirectement, je cherchais chez l'homme l'amour que j'avais pas forcément reçu de mon père, en fait, étant plus jeune. Et bon, les garçons, c'est un peu des machos parfois, hein, donc on se fait tromper et on pleure et on en reprend un autre. Et ça fait que ça m'a vraiment plongée en fait ben, dans tout ce qui est la dépendance affective. Et à un moment donné, j'ai commencé à connaître tout ce qui est l'escorting grâce à une amie qui, elle, en fait, sa grande sœur, elle avait beaucoup de vêtements, beaucoup d'argent et on se demandait en fait souvent comment est-ce qu'elle faisait et elle nous avait donné un peu ses plans entre guillemets ou du moins sa manière de faire, ce qui fait que on a commencé à reproduire.
Est-ce qui t'a attiré vers ça en premier? Finalement c'était
C'était l'argent, parce que sur les réseaux sociaux on voit en fait des personnes avec des marques de luxe, avec un type de vie, et c'est quelque chose que t'as envie, c'est quelque chose qu'on a envie de voir, on a envie de faire, on a envie d'avoir. Surtout que moi, quand j'étais jeune, j'étais très casanière. Ma mère, elle me bloquait beaucoup, elle m'interdisait beaucoup de choses. Donc quand j'ai grandi, c'était la dégringolade, je voulais tout tester, tout découvrir. Et mes parents n'avaient pas forcément la capacité de pouvoir me payer certaines choses. Donc automatiquement, j'ai cherché à avoir de l'argent pour en fait bénéficier de ces choses-là par mes propres moyens, en fait. Mais je pense aussi indirectement que c'était une manière pour moi, en fait, je voyais pas ça en mal parce que je me disais, bah là, c'est moi qui décide. Okay. Auparavant, je me donnais aux hommes par amour, parce que je les aimais, je voulais leur faire plaisir, mais là, c'était plus, j'ai un bénéfice derrière, en fait. Même si je donne mon corps, je sais que derrière, j'ai quelque chose aussi en retour qui peut me faire plaisir à moi, en fait.
T'avais l'impression, en fait, à ce moment-là, même à ce jeune âge, que c'est toi qui avais le pouvoir
totalement
sur ces hommes-là.
C'est ça. J'avais le contrôle parce que, je décidais. Lorsque j'ai vécu les abus sexuels, c'était pas un choix. Okay. C'était pas un choix. C'était indépendamment de ma volonté. C'était pas une décision. Donc, déjà, on se sent, c'est comme si on t'avait pris quelque chose, on t'avait volé quelque chose. Et par la suite, lorsque tu rentres dans les relations amoureuses, la personne, elle va te faire croire qu'elle t'aime, donc tu te donnes par amour. Et finalement, tu te rends compte que la personne ne t'aime pas véritablement. Donc, le fait de me donner dans la prostitution au niveau de l'escorting, je me disais, j'ai de l'argent et je décide de donner mon corps. C'est pas que là, je donne mon corps parce que j'aime la personne ou que je me suis fait manipuler ou parce que j'ai subi un attouchement. C'est parce que moi, je décide de donner mon corps. Et en contrepartie, j'ai de l'argent pour me faire plaisir, pour vivre la vie que j'ai envie de mener, en fait. Donc, c'était plus ça.
Et est-ce que des gens étaient au courant de ce que tu faisais?
Non, je pouvais pas en parler, surtout que à l'époque c'était quand même très tabou. C'est aujourd'hui un peu sur les réseaux sociaux et avec la génération Z, on entend parler un peu de tout ce qui est l'escorting, la prostitution et autres. Mais à l'époque c'était très tabou et c'était mal vu. Et c'est vrai que c'est quand même assez paradoxal parce que j'avais quand même des copines qui enchaînaient aussi des rapports sexuels, mais A contrario, c'était avec des hommes que elles aimaient. Moi, c'était pas forcément avec des hommes que j'aimais, donc j'avais cette peur de d'être jugée en me disant bah elles vont me voir un peu comme la mauvaise fille du groupe, alors que en soi on faisait toute la même chose, juste que moi j'avais de l'argent en contrepartie entre guillemets quoi.
Et t'avais pas comme un sentiment, tu sais, l'argent, tu dis ah ouais, je peux m'acheter ça, mais le après, tu sais, comme un sentiment de baisse d'estime de soi ou de te considérer comme un comment tu percevais d'arriver à dissocier entre ce que tu ressens, parce que toutes les femmes, je pense pas que les relations sexuelles on peut s'en dissocier complètement sans que ça laisse une trace, tu sais, comme telle. Et que je me dis, comment tu te sentais ou tu étais dans l'effervescence de l'argent et tu dis, j'ai un style de vie, puis
clairement ça, je pense que j'étais très inconsciente. C'est ce que j'expliquais un peu à Annabelle, hein, dans le sens où même le fait d'aller comme ça rencontrer des hommes pour avoir des rapports sexuels, bah c'est inconscient, parce qu'il y a tout et n'importe quoi qui peut arriver. Je peux tomber sur un fou qui peut m'égorger, qui peut me tuer, qui peut m'éventrer. Enfin, je pouvais vraiment tuer sur... je pouvais même avoir des maladies sexuellement transmissibles. Enfin, c'est quand même risqué. Mais j'étais dans l'inconscience. En fait, je pense que lorsque on vit déjà de l'abus sexuel et que on vit aussi également des relations sexuelles de manière permanente, on est là sans être là. C'est comme si on vivait notre histoire sans véritablement vivre.
C'est comme un peu de
exactement
ce que tu vivais, toi. T'es...
Donc, j'étais un peu comme... je me voyais sans véritablement me voir. Donc, je me confortais dans l'aspect de... bah, au moins, je peux avoir l'image que j'ai envie d'avoir auprès des gens et autres. Donc, je préférais enfouir tout ce que je ressentais et la réalité de vie que je traversais. Parce que bah j'avais quand même 15-16 ans. Et pour une jeune fille de 15-16 ans, vivre ces choses-là... C'est comme... très rude, c'est compliqué.
Tu consommais rien? T'avais pas, tu prends, est-ce que tu consommais de l'alcool?
Non, pas du tout. Je consommais à la limite de la chicha, mais c'est pas quelque chose qui fait vraiment planer. Donc, non, pas du tout. Okay. C'était vraiment, en fait, je sortais de ma réalité et, je me mettais, en fait, comme une illusion d'optique en me disant, bah, je vis la vie que, je veux mener, en fait. Alors que dans la finalité, non, pas du tout. Parce que, au fond de moi, lorsque j'étais seule la nuit, bah, il m'arrivait quand même de pleurer, d'être triste, de me dire, bah, est-ce que je vais vivre ça toute ma vie, en fait, finalement? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Mais après, quand la journée recommence ou que t'es entourée avec tes amis, t'oublies très vite, en fait, ce que tu peux ressentir et tu fais taire tes émotions, taire tes sentiments.
En fait, c'était ça ton mécanisme à toi. C'est que toi, tu faisais taire tes émotions.
C'est ça.
Et tu fonçais.
C'est
et
ça.
Tu te dis, bah, au moins, j'ai de l'argent, j'ai l'impression une impression de contrôle, etc. Donc, ça te suffit pour continuer d'avancer parce que t'es quand même jeune. Hein. C'est ça qui est impressionnant, tu vois.
Est-ce qu'il y a des hommes qui étaient violents, qui ont été violents avec toi ou te rabaissaient?
Non, pas du tout. Ah, et je pense que ce serait particulier de le dire, mais une fois de plus, hein, comme je disais à Annabelle, je pense vraiment que c'est Dieu qui m'a gardée. Je pense sincèrement que même si je péchais, bah, Dieu me gardait, Dieu me préservait, parce que bah, en fait, c'est des histoires, on entend, ça finit toujours mal en général. Donc, je me dis, c'est vraiment la grâce de Dieu qui me gardait, qui me préservait, quoi. Même si, bah, à ce moment-là, je n'avais pas rencontré Jésus. Bon, j'étais musulmane, mais j'avais arrêté de pratiquer et oh, donc, je me dis, c'est vraiment le Seigneur.
En tout cas, c'est sûr que c'est une grâce que t'aies pu être préservée de tellement de choses. C'est un milieu le monde est dangereux.
C'est ça.
Et ce milieu-là, particulièrement, est extrêmement dangereux. Et c'est sûr que moi, c'est une question que j'avais posée à Déborah. Je lui dis, en plus, à 15-16 ans, quoi. T'es une petite fille. Et du coup, tu continues ça jusqu'à tes 18 ans environ.
C'est ça. Donc, je continue ça à peu près jusqu'à mes 17 ans à peu près. Ensuite, mon père, il m'envoie à Londres pour faire mes études. Donc, pendant une année, j'étais à Londres. Là-bas, en fait, j'étais isolée de tout. Isolée de mes amis, de mes fréquentations. Parce que je pense que mes fréquentations jouaient aussi également sur ça. Donc, j'étais littéralement isolée de tout. Et c'est après, quand je suis revenue en France, que là, j'ai repris. Là, j'ai repris, mais j'ai repris courtement parce que j'étais rentrée dans une relation avec un homme que j'appréciais.
Une vraie relation.
Voilà, c'est ça, une vraie relation, entre guillemets. Et je voulais aussi prendre ma vie en main. Je voyais que mon âge avançait. Je me disais, je vais pas faire ça toute ma vie. Donc, j'ai commencé à chercher vers quel cursus je veux m'orienter et autres. Et par la suite, je suis tombée enceinte, en fait, de ce garçon-là. Donc, j'ai fait un déni de grossesse. J'ai découvert, en fait, à 4 mois que j'étais enceinte.
Ah ouais.
Et ça a été un choc pour moi parce que bah même si je l'aimais, à côté, en fait, il me trompait. Donc je savais que c'était pas quelque chose en fait de très 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 sérieux non plus en fait. Donc on a eu pas mal de litiges à ce niveau-là, au niveau de la grossesse. Par la suite, j'ai eu l'enfant et je continuais quand même à aller en soirée, à vivre une vie de débauche.
Vous êtes restés ensemble ?
Non, du coup, on n'est pas restés ensemble.
Quel âge avais-tu à peu près ? T'étais
du coup, à ce moment-là, j'avais à peu près 18 ans.
Oh, quand même.
18 ans. Ouais. Ah, ok.
Wow, ok. Oui, jeune, hein. Ça fait beaucoup de bagages, hein, déjà 18 ans.
C'est ça. J'avais 18 ans. Des fois, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies.
Ouais, bah, c'est sûr qu'arriver à 18 ans avec déjà toute cette histoire. Donc là, vous séparez. Toi, tu gardes ton bébé.
C'est ça.
Et, mais est-ce que ta vie, tu continues de sortir, mais est-ce que quand même ta vie change parce que t'as la responsabilité d'un enfant, t'es devenue une maman ou,
en toute honnêteté.
T'étais peut-être un peu inconsciente.
J'étais encore inconsciente. Ouais. J'étais encore inconsciente et surtout que j'ai découvert ça à 4 mois. Donc, t'as pas le temps vraiment d'assimiler la chose. Donc j'étais quand même très blessée, je trouvais ça
comment t'as découvert que t'étais enceinte finalement?
J'ai découvert à 4 mois parce que j'avais plus mes règles.
OK.
Donc après les 4 mois, j'avais plus mes règles et je sentais que quelque chose clochait dans mon corps. Je pouvais pas dire quoi mais je sentais que quelque chose clochait et je pense que là je me suis dit est-ce que je suis pas enceinte? Et c'est là que ça a été le déclic. Et après, je suis partie faire les échographies, etc. et autres. Et c'est là que on a découvert que j'étais enceinte.
Et t'étais choquée d'être déjà à 4 mois?
Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'étais choquée, mais après j'ai eu quand même le soutien de mon père, de certaines de mes tantes. Donc c'est ce qui m'a quand même aidée à persévérer en fait à ce niveau-là. Et ma famille m'a vraiment entourée quand même dans la grossesse. Donc, ils gardaient l'enfant et autres. Et c'est ça qui me permettait d'échapper à ce rôle de mère et de pouvoir, en fait, continuer ma vie de débauche, de sortir, etc.
Ah, tu continues
etc.
après aussi?
Oui.
Non, mais 18 ans, c'est
ça.
Et tu continues à sortir, mais tu n'étais plus escorte.
Non, j'étais plus du tout escorte.
Tu avais coupé avec cette vie-là. Mais...
Je les choses n'étaient pas, c'est ça.
Voilà. Oui. Et du coup, donc là, t'as ton premier enfant et tu retombes enceinte pas longtemps après. C'est ça.
Donc j'ai mon premier enfant et je continue en fait, justement ma vie de débauche. J'avais minimum 3 copains. Je pouvais pas en fait me passer d'homme. Il fallait vraiment que je puisse avoir quelqu'un à m'écouter. Donc j'avais 3 copains. J'avais l'officiel, j'avais celui qui pouvait devenir l'officiel et celui qui me courait après, de sorte à
pourquoi
ce que je
trois.
Parce que j'étais dans la dépendance affective et trois, je me disais au moins s'il y en a un qui me trompe, je peux rompre et le deuxième devient l'officiel.
D'accord.
En fait, c'était une sorte de sécurité pour moi. Et donc je continue ma débauche, les soirées, etc. et autres. Et à un moment donné, je me suis dit je veux pas vivre ça toute ma vie en fait. Et il y avait en fait le pasteur Axel qui faisait des vidéos sur les réseaux sociaux et ça m'a interpellée. J'ai été touchée par les propos qu'ils avaient été donnés. Ils parlaient de Jésus, de l'amour de Jésus. Donc du coup, j'avais décidé de visiter l'église. Et lorsque j'ai visité l'église, ils venaient tout juste de commencer. Donc ils étaient dans un petit salon et il avait une parole de connaissance et il décrivait littéralement toute ma vie. Il me disait, en gros, il m'avait dit comme cela, je vois qu'en gros, t'as vécu en fait dans un contexte familial très compliqué et tu cherches l'amour à l'extérieur et je te vois très triste, mais le Seigneur me dit qu'il va enlever ce vêtement de tristesse et te remettre un vêtement d'allégresse et de joie. Et j'ai commencé à pleurer, à être touchée. Je me suis dit, je vais revenir parce que c'était vraiment la première fois que je chantais quelque chose de différent. Et c'est quand je suis revenue une seconde fois, je me suis dit, pourquoi pas essayer Jésus? Et je suis revenue une troisième fois, mais j'étais toujours enceinte, en fait, de quelqu'un d'autre. Et j'avais toujours pas vraiment accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Cependant, j'étais quand même touchée. Et j'ai pris la décision d'avorter. Et lorsque j'ai pris cette décision d'avorter, je me suis sentie coupable, en fait, parce que j'avais vraiment posé des actions. J'étais partie à l'hôpital, etc. et autres. Et du coup, je les ai appelés directement, du coup, pasteur Laurine et pasteur Axel. Et je leur ai dit, j'ai fait une bêtise. Ils m'ont demandé quelle bêtise. Je leur ai dit, j'ai avorté, que j'ai d'autres rendez-vous à l'hôpital. Ils m'ont dit, nous, on va t'accompagner. C'est à ce moment-là que j'ai senti l'amour de Jésus, parce que je me suis dit, comment est-ce que des pasteurs peuvent t'accompagner, entre guillemets, dans ta bêtise, en fait. Et ce qui était beau, c'est que ils m'ont fait comprendre que s'ils le font, C'est parce que Jésus lui-même l'a fait, en fait. Il m'a tiré du péché, il m'a tiré de la dépendance, il m'a tiré de la débauche. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision d'accepter Jésus. Je me suis dit, s'il y a un Dieu qui m'accepte avec mes défauts, mm-hmm. qui m'accepte avec mes péchés, qui m'accepte malgré mon passé, en fait, pourquoi est-ce que je vais rester dans ce que je suis? Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai vraiment rencontré l'amour de Jésus. Wow.
Ouais. Et c'est comme ça alors que tu t'es attachée au Seigneur.
C'est ça.
Et est-ce que ça a été un changement radical ou ça a été plutôt progressif?
Alors, je dirais au niveau des soirées, de l'accoutrement, parce que j'aimais vraiment exhiber mes formes. Mm. J'exhibais vraiment littéralement tout. Donc, au niveau
c'est
de...
grâce à toi que Laurine maintenant a tout un message.
Voilà.
C'est ça. Tu as été sa source d'inspiration, quoi.
Possiblement.
Et donc, du coup, j'exhibais vraiment tout. Et même à l'église, mm-hmm. je venais avec des gros jeans déchirés. Ta pasteur Laurine, qui, toujours avec bienveillance et amour, qui m'expliquait comment est-ce que je devais m'habiller maintenant que j'avais accepté Jésus. Et surtout, ils axaient sur l'aspect de le cœur change et l'accoutrement changera par la suite aussi également. Et donc, du coup, c'était quoi la question?
Est-ce que c'était radical ou est-ce que c'était progressif?
De commencer par changer l'habillement, comme par le commencement, t'as changé tes vêtements?
C'est ça, c'est clairement ça. Par le commencement, j'ai changé les vêtements. Et tout ce qui est la débauche, les soirées, j'ai réussi à arrêter. Mais j'avais quand même beaucoup de difficultés avec les garçons et la masturbation. Mmh. Oui, je continuais à chercher en fait l'approbation des hommes, l'amour des hommes. En fait, j'étais encore littéralement dans la dépendance affective.
Et tu comprenais à ce moment-là que c'était de la dépendance affective ?
Pas du tout.
Okay.
Je comprenais pas du tout que c'était de la dépendance affective. Je me disais que c'était tout simplement ce désir d'avoir un mari, un homme. Parce que je pense que toute femme a ce désir parfois d'avoir un mari, un homme. En tout cas, quand elle rencontre pas Christ, parce que quand on rencontre Christ, on comprend qu'on n'est pas centré sur l'homme en lui-même, mais d'abord centré sur Jésus. Donc, moi, j'avais pas totalement cette compréhension-là encore. J'avais quand même beaucoup de blessures, les rejets, l'abandon liés à papa, liés à maman, aux difficultés familiales que j'avais rencontrées. Parce que même quand ma famille a découvert mon témoignage, ils m'ont criblé. Donc, je me suis dit, mais je me sentais vraiment rejetée. Donc, j'étais vraiment dans la dépendance affective. Et du coup, j'ai pas changé radicalement. Non, ça m'a pris du temps quand même, surtout au niveau de tout ce qui est la sexualité, au niveau de la dépendance affective. Et c'est avec les enseignements que j'ai compris. Et surtout, à un moment donné, on avait eu des enseignements sur les blessures intérieures qui m'ont vraiment aidée. Et à ce moment-là, en fait, j'avais littéralement entendu Dieu me dire « Ne cherche pas les hommes de ta vie, parce que je suis le Dieu de ta vie. » Et c'est là, en fait, que j'ai compris que l'homme ne pourrait jamais remplacer Dieu, en fait, que il y a un cœur, en fait, il y a un vide dans le cœur de l'homme que seul l'amour de Jésus peut combler. On peut avoir des hommes, on peut avoir de l'argent, on peut avoir des amis, mais dans la finalité, toutes ces choses, elles passeront. Et c'est l'amour de Jésus qui passe pas, en fait.
Et donc, quand t'as entendu cette parole, ça a été un moment tournant?
Oui. Ça a vraiment été une transition, de la compréhension de l'amour de Dieu pour moi, et je ne m'appuyais plus sur l'amour de l'être humain, sur le rejet que j'avais ressenti, parce que je me disais, même si je pouvais me ressentir rejetée par maman, par papa ou la famille, Dieu lui me rejette pas. Peu importe le passé que j'ai eu à vivre, peu importe les erreurs que j'ai eu à faire, Dieu lui ne me rejette pas, Dieu ne m'abandonne pas, Dieu ne me condamne pas. Donc il y a vraiment eu une transition à partir de ce moment-là. C'est là que je suis rentrée dans les eaux du baptême, c'est là que par la suite j'ai vraiment accepté Jésus et décidé de marcher en fait dans le discipolat. Il y a eu un changement drastique.
Il est venu ton
en
Seigneur,
fait.
Il était plus juste ton Sauveur, il est venu ton,
c'est ça.
Ton Seigneur. Je vais faire une pause ici sur ce que tu viens de dire. Et qui me semble très important, c'est que tu as rencontré Jésus et ton cœur a été touché et tu as donné ta vie au Seigneur, mais le changement n'a pas été radical dans toutes les sphères. Et je pense que quelquefois, il y a des jeunes femmes ou des moins jeunes femmes qui arrivent dans nos églises, qui arrivent dans les milieux chrétiens, et puis on s'attend à ce qu'il y ait tout de suite un changement immédiat dans tous les domaines de leur vie. C'est de se dire, mais attends, toi, tu veux ça encore? Mais attends, toi, tu fais encore ça? Mais comme tu l'as bien expliqué, il y avait encore toutes ces blessures, il y avait encore tout ce rejet, tout cet abandon, et qui avait besoin d'être traité. C'est certain, mais qui n'a pas été traité en une seconde.
C'est
il y
ça,
en a ouais. pour qui c'est immédiat, c'est mais il y en a pour qui ça ne l'est pas.
Mais c'est ce que je m'en ai dit. Moi, je trouve que c'est sain, S-A-I-N, que ça prend un certain temps. Parce que effectivement, comme tu dis, Dieu peut guérir instantanément, puis le changement, il fait 180 degrés. Mmh, oui. Mais Dieu travaille aussi avec les lois naturelles, comment on a été conçu. Donc, quelqu'un qui est victime de rejet, qui est victime d'abus sexuels, qui est victime de ça, il faut que le Seigneur et le Saint-Esprit fassent son œuvre,
c'est ça,
tranquillement, au fur et à mesure, et restaure. Et ça, moi, je trouve que c'est important de passer chacune des étapes. Parce que souvent, dans nos églises, quand on va voir des changements radicaux, c'est que des fois, c'est une pression sociale.
Oui.
Ils sont jugés par leur apparence, sont jugés par leur passé. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes racontent plus rien dans les églises. Ouais, parce qu'ils sont jugés. Et là, ils ont un changement, mais sous la pression. Ce qui fait que quand le temps passe, ben, ça passe pas l'épreuve du temps, le test du temps. Et moi, je trouve que c'est un beau témoignage comme ça de dire, bien sûr, et j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que, en comprendre que Jésus nous aime, que Jésus nous pardonne, on le comprend au niveau intellectuel, mais d'arriver, de l'absorber jusque dans notre cœur, où c'est là que Dieu fait la guérison. Et on peut pas faire un changement, parce qu'elle était jeune quand même, et c'est quand même plusieurs années d'événements qui laissent des traces, hein, même si tu te dissociais de ça, c'est pas sans conséquence. Donc, je trouve ça beau que tu as pu comprendre avec la tête et que tu as eu des enseignants pour te le montrer, mais que le Saint-Esprit est venu en toi le guérir sur le temps Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être quoi, si je fais le décompte 10 ans plus tard, son témoignage, il perdure, il passe à travers le feu et tu as une vie complètement transformée. Et ça, je trouve que c'est vraiment très inspirant.
C'est
mieux des fois que certains où c'est par la pression que les gens changent. Et ça dure pas à travers le temps.
Comme tu disais, c'est d'abord le cœur.
Oui, et c'est un processus.
D'abord l'intérieur, et après, oui, l'extérieur change. Et c'est ce que Jésus disait, nettoyez pas juste l'extérieur de la coupe. Et on n'est pas là pour faire semblant que les gens ont changé. Ça, il n'y a aucune victoire là-dedans. Mieux vaut une Déborah qui a le cœur qui est vivement touché et qui est touché par l'amour de Dieu, et puis qui met, au fur et à mesure, son cœur change, au fur et à mesure, l'extérieur change aussi. Mais il faut pouvoir avoir cette grâce et cette patience et ce regard de foi sur la personne. Comprend, elle est en chemin, elle est en train de changer. C'est pas une mauvaise personne, c'est pas une mauvaise fille, elle veut pas faire le mal, mais par contre, je pense, et que tu l'avais aussi, c'est que t'avais quand même un cadre.
Oui.
Un cadre avec des autorités spirituelles, des pasteurs qui prenaient soin de toi, mais qui disaient, wow, la Déborah, attention.
Mais aussi, il y a tout un apprentissage à faire, parce que quand tu deviens, tu disais toi-même que tu es dépendante affective, c'est comment tu remplissais ton réservoir affectif, c'était par les hommes, la sexualité. Donc, il y a tout un changement au niveau du comportement qui doit et de réapprendre maintenant, qu'est-ce qui me nourrit effectivement, dans quelle relation c'est sain, et tout ça, ça prend un certain temps. Et comme tu dis, Annabelle, merci Seigneur pour ces pasteurs qu'on aime beaucoup d'ailleurs, qui ont été là et sainement pour te guider dans ça.
Non, mais ça a vraiment été un processus, et je pense que malheureusement, en fait, beaucoup de jeunes acceptent Jésus et ils aspirent en fait à changer tout de suite. En fait, il y a un parallèle entre ceux qui effectivement changent tout de suite et ceux qui, ça demande un peu plus de temps pour changer en fait. Et ce qui est beau, c'est cet aspect où on se dit, lorsqu'on a des enseignants qui comprennent en fait que l'âme a été polluée durant toute l'enfance, et ça nécessite un certain cheminement pour que l'âme puisse être restaurée. Et c'est en cela que la Bible a dit qui guérit ceux qui ont le cœur meurtri. En fait, lorsqu'on parle de cœur, on parle de l'âme, et l'âme, elle est meurtrie, elle est brisée, pour certains depuis 15 ans, pour d'autres depuis 20 ans. Donc moi, de mon bas âge jusqu'à mes 17 ans, mon âme était meurtrie. Donc il a fallu vraiment un temps de réadaptation, de rééducation de mon âme, et ça s'est fait au travers des enseignements et de la parole de Christ, en fait. Donc c'est vraiment un processus qui, je crois, il faut accepter, et surtout en fait s'ouvrir au Seigneur, ne pas avoir peur que au fur et à mesure le Seigneur guérisse les choses avec en son temps, en fait.
Et quand on préparait l'émission, je t'ai posé une question et ta réponse a été surprenante, mais en fait finalement, en te connaissant un peu, ça l'est moins,
mais tout
mais je trouve ça intéressant en fait d'avoir ton point de vue sur ça. C'est une fois que tu as rencontré Jésus et que tu as su que tu étais une nouvelle créature, qu'il avait des projets de paix et de bonheur pour toi, est-ce que tu as vécu une forme de honte, de condamnation, ou de te dire, voilà, moi, j'ai trop péché, tout ça un peu te disqualifier?
Alors non, pas du tout.
C'est ça qui m'a dit, pas du tout.
Non, pas du tout. Peut-être c'est une différence de génération. Déborah, Annabelle et moi, il y a tout un écran.
Non, mais parce que tu sais, moi j'entends toute son histoire, tu sais, j'absorbais tout, toute l'émotion du truc. Mais tu sais, t'avais cœur. Ah non, pas du tout. Et, mais en fait, j'ai trouvé ça très beau comme réponse et je me dis, waouh, l'œuvre de la croix, t'as eu cette révélation complète. Puis je me dis, bah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tu vois. Mais du coup, je trouvais ça intéressant que tu puisses partager pourquoi est-ce que tu l'as pas vécu.
Oui, bah, je l'ai pas vécu. Je pense déjà premièrement par rapport à l'église dans laquelle j'étais, donc ils ne jugeaient pas en fait mon passé, mais aussi également quand je regardais la Bible, que je lisais la Bible, je me disais bah il a pardonné Marie de Magdala qui était quand même une prostituée, la femme adultère. On parle de Rahab. En fait, on parle de toutes ces femmes-là que le Seigneur a graciées. Donc pourquoi est-ce que je me qualifierais encore par rapport à mon passé? En fait, j'avais cette compréhension que ton passé ne détermine pas ton futur. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, je me sens pas condamnée, que j'arrive à en parler librement. Surtout que je me dis, il y a des personnes qui sont encore dedans, Il y a des personnes qui sont encore dedans, il y a des personnes qui vivent encore ce genre de choses, qui ont du mal à en parler, qui n'ont pas non plus de plateforme à en parler, ni de personne à qui en parler. Et je veux pas être la personne qui me tait, parce que si le Seigneur m'a sauvée de ça, c'est pour aussi également que d'autres personnes puissent être sauvées de ça en fait. Donc certes, j'ai quand même été flagellée, un peu accusée ou condamnée sur les réseaux sociaux, mais j'avais un objectif, glorifier Christ. J'avais cet objectif de me dire, s'il a pu m'en sortir, il peut en sortir d'autres. Et certaines ne savent pas que Jésus peut en sortir, peut les sortir de là en fait. Donc je préfère en parler librement que me rétracter, me dire bah j'ai peur du jugement ou d'être condamné et autres, parce que dans la finalité, si on a été sauvé, c'est pour témoigner aussi en fait.
Tout à fait. Et c'est dans notre concept, Annabelle, et dans notre culture, parce que aux yeux de Dieu, la Bible dit si t'as regardé une femme, t'as déjà commis l'adultère. Donc toi, il y a pas de petit et de grand péché, il y a pas de passé plus, et c'est les conséquences que ça fait sur notre vie. Mais moi, je trouve au contraire, c'est que pour avoir été auprès des femmes, et encore aujourd'hui pendant des années, c'est incroyable quand, de savoir quand les femmes sont dans un milieu de confiance, comment elles peuvent te confier que l'histoire de Déborah, c'est pas la seule. Il y a beaucoup de femmes dans nos églises qui sont rendues à un certain âge, qui ont vécu des épisodes, puis qui n'ont jamais osé dire, parler. Et peut-être que d'entendre un témoignage comme le tien, ils vont dire, ben, même si je le vis plus aujourd'hui, est-ce que je suis guérie de ça? Est-ce que ça a laissé de la honte encore sur ma vie? Tu sais, on parle de ça, on parle d'avortement, et il y a beaucoup de femmes chrétiennes et non-chrétiennes qui vivent sous le poids de la culpabilité, et te voir rayonnante comme ça, en parler, tu vois que c'est d'une guérison, c'est derrière toi. Et aussi un espoir pour des femmes, parce que le Seigneur, il nous appelle justement à prêcher sa parole. Et autour de nous, on parle sur les réseaux sociaux, je parlais avec des jeunes, il y a beaucoup de femmes de jeunes femmes qui vendent leur corps ou qui, on n'aimera pas les sites, mais tu vois que c'est comme un naturel d'exposer là. Et ça, c'est un témoignage, parce qu'au fond d'elle-même, je suis sûre qu'il y a, toi, tu disais déconnectée, mais je suis convaincue que à un moment donné, quand le Seigneur te dit, quand tu t'es dit, je veux pas que ça soit ça ma vie, ben, il y a combien de femmes qui vont peut-être écouter l'émission, qui vont être, cette émission va être partagée, puis qui vont se dire, hey, moi, je veux pas que ça soit ça ma vie. Puis ce que Déborah a vécu, moi, je le veux dans ma vie, ça. Et moi, je trouve que c'est un des plus beaux messages d'espoir de dire, peu importe, devant, et c'est la beauté du christianisme de Jésus. Il y a pas, on n'est jamais trop loin pour lui, puis il nous aime, peu importe d'où on vient. Il change notre vie, il y a une destinée encore plus belle. Donc, c'est un beau témoignage d'espoir.
Ouais, vraiment, vraiment très beau. Et moi, ça m'impressionne de voir, ta foi, dans le sens où, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Je l'accepte. Et non, mais c'est, on devrait tous être comme ça. Et je disais une double histoire d'amour parce que tu as rencontré Jésus qui a changé ta vie, mais quelques années plus tard, tu as aussi rencontré celui qui est aujourd'hui ton mari.
C'est ça.
Maintenant. Vous êtes 6 ans, c'est ça?
C'est ça, exactement. On a 6 ans de mariage, donc par la suite, lorsque j'ai accepté Jésus, que je me suis baptisée, autre que j'ai grandi d'abord dans le discipulat, que j'ai vraiment compris en fait que j'avais des blessures intérieures, que je devais être guérie. Là, j'ai pu en fait entamer du coup les fréquentations avec mon époux, Et on s'est fiancés, on s'est mariés. Là, ça fait maintenant 6 ans.
Et il connaissait son histoire. Oui. Parce qu'elle témoignait, en fait. Enfin, je veux dire, dans l'église, elle témoignait. Je te le dis. elle témoignait de son histoire. Elle en parlait. Du coup, mais encore une fois, c'est, je veux dire, Dieu utilise aussi cette liberté que t'avais parce que t'as pu rencontrer un homme qui savait d'où tu venais et qui tu étais. Et il n'y a pas eu ce moment. Bah mince, comment est-ce que je vais lui annoncer? Est-ce qu'il va l'accepter? Parce qu'en fait, il connaissait déjà ton histoire et c'est comme ça qu'il t'a aussi choisi.
Oui.
Et est-ce que quand t'es rentrée dans la relation avec lui, je pense avoir sa réponse, mais est-ce que par moment t'as eu des doutes ou tu t'es
pas
dit
pas du tout
est-ce que je vais réussir, est-ce qu'il va m'aimer, est-ce qu'il va être fidèle, est-ce que je vais pouvoir compter sur lui toute ma vie.
C'était plus je dirais plus des doutes liés à moi, à mon passé, parce que je sais que comme je l'expliquais tout à l'heure, l'âme est polluée et donc du coup l'âme, en fait, il faut continuellement chercher à la discipliner. Et j'avais peur, en fait, parfois, de retomber dans certains travers. Parce que, comme je l'expliquais, j'avais 3 copains avant. Donc, je me disais, est-ce que je vais pas me lasser? Est-ce que, je vais réussir à accepter d'être mariée toute ma vie avec la même personne, sachant que j'ai eu plusieurs relations, donc c'était plus ça. Mais c'est vrai qu'à son niveau, lui, il était quand même beaucoup dans l'acceptation de ce que j'avais vécu. Il était dans cet aspect de c'est ton passé et Jésus t'a pas jugé pour ton passé, je vais pas te juger non plus pour ton passé, en fait.
Il savait les réflexions, les questions que tu pouvais te poser?
Oui, il savait, parce que on en parlait quand même. On est très franc, mais il était dans cette optique de se dire, je sais que c'est ton âme, en fait, c'est pas vraiment toi, c'est tes blessures intérieures, donc c'est encore une fois de plus un processus de restauration. Je pense que tout au long de notre vie, le Seigneur, il nous restaurera, il nous guérira de plusieurs choses, parce qu'il y a des blessures qu'on peut avoir dans l'enfance, des blessures qu'on peut avoir même en tant que chrétien. Donc, il était conscient de ça. Donc, il n'était pas rétractaire, mais il était plus dans l'espérance de « je sais que Jésus fera ». S'il a déjà fait beaucoup, il peut encore faire, en fait.
Ok, ça l'a pas insécurisé de se dire que tu te posais la question, est-ce que je vais pas me lasser du mariage, est-ce que je vais être fidèle?
Potentiellement si, mais je pense pas qu'il me l'a dit. C'est ça. Okay. Mais potentiellement si, parce que ça peut pas forcément, tu peux pas forcément avoir de l'assurance quand une personne te dit, tu sais, j'ai peur de me lasser de toi. Donc je pense que si, quand même. Mais
je veux juste clarifier le point au cas où, parce que je veux vraiment pas que ce soit mal compris, parce que tu as dit que t'avais grandi, en fait, et t'avais déjà entamé tout un processus de guérison, de restauration, et on n'est jamais au bout du bout du bout. Donc mais t'étais déjà avancée, et ça veut dire que t'étais prête pour le mariage.
Oui.
Ça, c'est le premier point, parce que de pas te précipiter. Ça va mieux, etc. Il y a entre le ça va mieux et ça va bien, il y a quand même un pas quelquefois, et pour le mariage, ce pas, il est nécessaire, surtout avec une histoire comme ça, parce que ça peut avoir des répercussions si c'est pas traité. Et la deuxième chose, c'est que tu as été honnête aussi avec toi-même, tu as osé te poser les vraies questions, les confronter, et pour toi-même, devant Dieu, et aussi avec celui qui allait être ton futur mari. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas des petits questionnements vite fait. Ah oui, peut-être que je vais me lasser, etc. C'est que tu as voulu être sérieuse dans ton engagement.
Et je disais, justement sur la croissance spirituelle, des fois, on a des angles morts. C'est-à-dire que cette question-là, il faut être honnête. Est-ce qu'on ose vraiment être franc avec moi-même? Dire, est-ce que je vais me lasser? Parce que dans nos cercles chrétiens, c'est sûr que tu te maries pour la vie. Donc, moi, j'admire ton honnêteté de pas laisser les questions existentielles dans l'angle mort, puis de dire, je fonce, puis dans le fond, mais parce que tu sais, t'es authentique avec toi-même, tu sais, j'y pense, donc je les traite. Et je me disais, peu importe les angles morts qu'on a, mais si on veut grandir spirituellement, des fois, il y a des questions qu'il faut se poser, garder dans l'angle mort, et c'est quand on les affronte qu'on grandit. Et c'est pour ça que je pense qu'elle a le résultat qu'elle a aujourd'hui, aussi, ce beau témoignage-là, parce qu'elle a osé affronter des questions quand même difficiles, Annabelle, de se dire, il y a combien de personnes qui sont dans leur mariage, puis se disent, je pense à telle personne, je suis pas sûre que je veux passer ma vie, mais tu le
Tu le verbalises pas.
Tu le sans même le verbaliser, mais au moins le verbaliser à Dieu pour le traiter. Mm-hmm. Parce que comme je dis toujours, quand on dévie de la voie, c'est pas du jour au lendemain où je me lève et je me dis, je quitte mon mari. Mm-hmm. C'est ces questions-là d'angle mort que t'as gardé, que t'as pas confronté et que finalement, ben, ça prend toute la place c'est dans ton esprit. Et c'est ça, la vérité qui libère. C'est que quand j'ai des questions existentielles, je les mets, je les dis à Dieu et s'il faut, je les verbalise. Mais en fait, de faire face à ces questionnements-là.
Et Déborah, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais dire à une jeune fille, une jeune femme qui est soit escorte ou alors aussi qui est complètement prise dans la dépendance affective, qui va de relation en relation, qui donne son corps sans s'arrêter pour rechercher cet amour. Qu'est-ce que tu veux lui dire aujourd'hui?
Je lui dirais que... alors, je pense que ça diffère déjà des choses, mais si t'as vécu un abus sexuel, c'est pas de ta faute. Parce qu'on pense parfois que c'est de notre faute, que c'est nous, c'est pas de ta faute. C'est pas évident de pardonner, mais c'est possible de pardonner avec l'aide de Christ, en fait. Et par rapport à la dépendance affective, je dirais principalement que ce qu'on cherche, parce que la dépendance affective, c'est pas forcément que lié aux hommes, mais ça peut être la famille ou les amitiés. Donc, ce que tu cherches à combler avec l'être humain ne pourra jamais te combler. C'est littéralement Jésus qui te comblera parce que il est la personne la plus parfaite en fait, il te comprend même là où toi tu n'arrives pas à te comprendre, lui il te comprend et il t'aime en fait. Et tout ce qui est lié à l'aspect de la débauche sexuelle, maintenant je dirais que c'est possible d'en sortir. C'est possible d'en sortir, tu as une porte de sortie et cette porte de sortie n'est pas la culpabilité, n'est pas le jugement, n'est pas l'accablement, mais cette porte de sortie c'est de compter sur Christ et de lui dire Seigneur, je n'y arrive pas, j'ai besoin de toi en fait. Et pour finir, je dirais une fois de plus, c'est vraiment une phrase que j'affectionne beaucoup, ton passé ne détermine pas ton futur. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as du mal que cela te définit en fait. Tu peux être cette femme que tu aspires à être en Christ, tu peux être cette femme restaurée, tu peux être cette jeune femme épanouie, tu peux être cette jeune femme qui blouit avec Jésus, c'est possible.
En tout cas, tu es un témoignage vivant.
C'est ce que c'est exactement ce que j'allais dire. Tu es ce témoignage vivant et je trouve ça merveilleux que tu puisses non seulement en témoigner, mais que tu puisses aussi vivre les projets que Dieu a pour toi avec une telle liberté et avec une telle assurance de l'amour de Dieu pour toi. Et c'est magnifique. Ah et je crois oui, juste ta vie est un témoignage. Merci Déborah.
Merci pour ce beau sourire.
Tu es magnifique.
Merci
beaucoup. Et à vous qui nous avez suivis, merci aussi. On va se retrouver vendredi. On vous attend pour une nouvelle émission et on vous dit bye bye, à bientôt.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.